Il n'y a plus de vaches sur la place, c'était trop beau pour les veaux. Sans le marché, désolé, la loterie a gagné. Une histoire d'amour qui s'enlace tous les jours. Une histoire d'amour qui s'enlace tous les jours. Une histoire d'amour.
Radio Is 98.6 en direct de la place Paul Dunesme à Villandreau. Chose étrange, on n'est pas sur la place de la Collégiale cette année. On est parti expatrié de l'autre côté du Ciron, ici à Villandreau. Le château d'eau ne ressemble pas du tout à la Collégiale du Zest où on a placé il y a quelques centaines d'années de ça les restes de ce bon Bertrand de Goth. Bertrand de Goth, plus connu sous le nom de Clément V, qui a fait des siennes à l'époque, et nos dirigeants, ils font exactement la même chose, si on peut dire, ils se conduisent pas très bien. Dernière mésaventure en date, on nous propose de faire passer par chez nous une ligne de TGV, donc le train revient en Sud-Gironde, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas pour s'arrêter. Alors avec nous, ben il y a Daniel Pompougnac qui a pris à bras le corps ce dossier au sein de l'association Léa, qui milite et c'est des gens qui défendent et militent pour la défense de la région. Merci Daniel d'être avec nous.
Oui, merci de nous accueillir.
Ben merci parce que c'est vrai qu'on a mis un petit peu de temps à s'installer sur cette place. C'est pas quand on arrive qu'on arrive pour la première fois quelque part, c'est pas évident. Il faut s'installer, il faut trouver les trucs, il faut trouver les repères et tout ça. Et donc voilà, on a fini par s'installer. Il y a du monde sur la place. Et donc, comment vous avez eu vent à l'association Léa ? On parlera un petit peu de tout tout à l'heure. Comment vous avez eu vent de cette installation ? Parce que il y a plein de gens qui ont cru que c'était un canular au départ.
Canular, oui. Mais nous vivons dans une région, un espace, une zone où il y a très très peu de choses. Et ce très très peu de choses, ça intéresse beaucoup nos dirigeants. Parce qu'on peut y mettre, dans un très peu de choses, plein de choses. Et le dernier avatar, c'était la décharge de Guillos, un petit village qui est pas très loin d'ici, où il y a eu tentative d'installation d'une décharge de déchets ultimes. Alors, quand ça s'est arrivé, on s'est dit, mais ça recommencera. Ça recommencera parce que on essaiera encore de nous mettre des choses et tout ça en force, sans vraiment consulter les gens. Et alors on a créé une petite association de veille qui s'appelle Léa et qui consistait, comme son nom l'indique, à veiller, à se dire on va attendre, on va voir ce qui se passe. On n'a pas eu très longtemps à attendre puisqu'effectivement au mois de juin, il nous est tombé une énorme enclume sur la tête et cette enclume s'appelle le TGV.
Alors ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est tout le monde savait que le TGV allait passer Paris via Bordeaux vers Toulouse, mais personne n'imaginait qu'on aurait besoin pour cela de le faire passer ailleurs que sur l'emprise existante, c'est-à-dire ça passe par Prégnac, Langon, La Réole, Marmande, etc. Alors pourquoi y a-t-il besoin d'aller faire passer le truc
Voilà, alors il faut savoir que ce projet est tombé comme ça tout d'un coup sans que personne ne s'en doute. Il n'était même pas prioritaire en 2003, pourtant il l'est devenu en 2005. Bordeaux-Toulouse. Si on regarde une carte et qu'on regarde Paris-Toulouse, déjà il y a quelque chose qui est illogique à vouloir passer à tout prix par Bordeaux. Ensuite, quand vous parlez de l'emprise existante, c'est le bon sens, tout simplement, parce qu'il existe d'autres manières de faire passer des TGV, c'est les TGV pendulaires. On adapte le train à la voie existante sans pour autant détruire, vraiment le mot je le choisis, un espace entier avec tout ce que ça comporte de social, avec toutes les souffrances des gens, avec toutes les atteintes à l'environnement, avec les risques que ça peut représenter.
Oui, alors Léa donc s'est engagée dans cette bataille. Est-ce que c'est pas quand même la bataille du pot de plâtre contre celui du pot de fer? Parce que je pense que la société, c'est RSF, c'est ça?
C'est RFF.
RFF, Réseau Ferré de France.
Qui gère désormais une grosse partie de rail. C'est issu de la CNCF.
Et qui et donc vous êtes une petite asso en plus. Est-ce que le pouvoir politique local va se mobiliser pour empêcher cette folie, quoi?
Alors vraiment c'est la surprise. Non, c'est pas la surprise. Le pouvoir politique local se mobilise. Les gens se mobilisent réellement. C'est-à-dire, c'est vécu, il y a une immense colère, c'est vécu comme quelque chose d'humiliant. Le train, il va de Bordeaux à Toulouse. C'est pas un train qui concerne les gens, pas du tout. C'est un train, encore une fois, qui va de Bordeaux à Toulouse. C'est pas un train qui va desservir des petites localités. Pire, en ce moment, la SNCF est en train de supprimer des lignes corail qui allaient de Bordeaux à Toulouse. Donc c'est quelque chose que les gens vont avoir à subir. Donc les élus, les associations, les élus d'ailleurs au plus haut niveau, conseillers généraux, députés, sont en train vraiment de se mobiliser. Alors oui, vous avez raison, c'est quelque chose qui s'apparente à un combat contre un truc énorme. C'est-à-dire, c'est énorme, s'attaquer à ça, c'est énorme, oui, complètement. Mais au moins, on va essayer de le faire. Et peut-être qu'on va y arriver.
Alors, tout à l'heure, on parlait de la décharge de Guillos. Celle de Lugmo quelques années auparavant.
C'est ça.
Qui avait, il y avait une réalité. C'est-à-dire que les gens qui ont milité, qui se sont battus contre ces projets, ont trouvé des choses dans le sous-sol pour les aider à se bagarrer. Par rapport au TGV, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour empêcher que ça se fasse?
Alors, ce qui s'est passé à Guillos avant d'arriver au TGV, c'est que tout d'un coup, on a compris que sous cette future décharge, ou pas loin, il y allait avoir toutes les eaux qui alimentaient Bordeaux. Et à chaque fois, pendant ou après coup, on trouve qu'il y a quelque chose d'important. Alors là, ce qui se passe, c'est que le TGV, c'est quelque chose de dangereux. Il va traverser la forêt landaise avec des risques énormes humains, financiers que cela peut représenter.
Oui, alors je sais que René Martinez vous perturbe, mais il faut pas t'inquiéter, Daniel, c'est pas grave, on va continuer notre conversation. René Martinez, on l'aura à Radio Uz tout à l'heure.
D'accord.
Son concert, sans
je
problème.
Je suis perturbé.
Donc,
oui.
On va continuer notre discussion.
D'accord.
Et donc là, le TGV, donc on évoque des problèmes de risque d'incendie.
Énorme.
D'autant que l'exploitation un petit peu intensive de la forêt favorise ce type de.
Tout à fait. Alors ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est qu'il y a un maillage de la forêt qui existe, qui a été réalisé, on parle de siècles, c'est-à-dire les pistes, des chemins dans la forêt, tout ça, ça va être détruit, parce qu'il va y avoir un mur de 6 mètres de haut, avec un TGV qui passe dessus, et il n'y aura pas moyen d'aller de l'autre côté. Alors si on parle d'exploitation de la forêt, c'est grave, si on parle d'incendie, c'est très grave aussi. On va retrouver des pompiers et des gens coincés dans une nasse, et les réponses classiques qu'on a dans ces cas-là, c'est oui, mais il va y avoir des ponts, il va y avoir des ponceaux. Il faut vraiment connaître quel est le gabarit d'un véhicule lourd de pompiers pour comprendre que c'est quelque chose de catastrophique qui s'annonce, avec encore une fois des risques humains. Mais des risques humains lourds. Il y a eu un incendie il y a quelques années au Porge. C'est ce qu'on appelle les grands incendies. C'est-à-dire, ce sont des incendies qui sont pas du tout maîtrisés, qui à un moment risquent de déraper. Il a fallu faire venir des pompiers d'Espagne, d'Italie, de plein de pays. Et bien là, le jour où il y aura un incendie, un grand incendie, il faut savoir que si cet incendie, qu'il soit créé par le TGV ou de l'autre côté du talus TGV, il faut savoir qu'un TGV, il peut créer des incendies, mais que une sorte de feu, quand il y a un grand feu, ça peut parcourir 2 kilomètres. C'est énorme, 2 kilomètres. Ça veut dire que, encore une fois, on est en train d'ajouter un risque énorme sur des risques déjà existants. Les nombreux incendies qui se sont passés maintenant, qui se passent actuellement, le montrent.
Ouais. Et ça c'est donc un problème. Et moi il y a quelque chose qui me tracasse encore plus, quoi. C'est le risque humain, quoi. C'est-à-dire par rapport aux populations qui sont installées ici, c'est quasiment les considérer comme des Indiens à qui on peut tout, on peut mettre la peste comme on veut, quoi.
Alors le terme indien, il est très très bien choisi. Tout d'un coup, on a cette notion de réserve. Et puis vous n'avez rien à dire. Alors il y a un débat public, mais le débat public, on a très vite compris que c'était un débat qui était faussé, puisque la plupart des gens n'ont pas reçu l'information concernant ce débat public. C'est-à-dire, c'est encore une fois quelque chose qui passe en force face à des gens qui subissent. Donc le terme d'indien me convient tout à fait, quoi.
Quel est l'interlocuteur aujourd'hui là?
Alors autant il était simple d'avoir un interlocuteur avec par exemple la décharge de Guillos, c'est le préfet qui décide avec des commissions diverses. Autant là, c'est extrêmement difficile parce que l'interlocuteur, il n'est pas local, il n'est pas du tout local, il est national. Ça veut dire que de toute façon, ça va être très difficile pour nous, mais on ne désespère pas de trouver les bons interlocuteurs, d'autant plus qu'ils sont multiples. Ils sont politiques, ils sont financiers. On va avoir du mal, mais on va constituer des dossiers et on va beaucoup travailler là-dessus.
là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà une coordination de mise en place?
Alors, il y a déjà une coordination qui s'est mise en place avec plusieurs associations. Je cite l'une des plus célèbres, la CEPENSO. La CEPENSO qui a un argumentaire qui est excellent. Ils ne disent pas « on est contre le TGV ». Ils disent « on est contre ce TGV-là qui n'a aucune raison d'être ». Alors qu'on peut très bien être pour le TGV. Il y a des TGV qui se sont expliqués parfois. Il y avait un TGV qui était prévu de Bordeaux à Irun. Ce TGV qui peut-être ne verra jamais le jour parce qu'il n'y aura pas d'argent et qui aurait bien déchargé la Nationale et la 63, ben ce TGV pouvait exister. Le nôtre, on ne comprend pas. Vous voyez, déjà, je m'approprie, c'est notre TGV.
Mais, en fait, dans ce projet, le projet qui est le nôtre, en fait, qui nous concerne, il y a une bretelle pour aller sur Irun, c'est prévu,
alors,
non?
Pire, on aurait pu se dire, il y a une ligne TGV, mais non, c'est pas fini. Aux alentours d'Ostens, de Capsule, on ne sait pas trop où, il va y avoir une autre ligne qui va se greffer là-dessus et qui va partir vers Irun. Le débat public est prévu en 2006. Donc ça veut dire que tout d'un coup, c'est pas une ligne, c'est deux lignes. Et quand on regarde le trafic, ça veut dire que les gens qui habiteront par là auront à subir peut-être un TGV toutes les 3 minutes avec les décibels et le côté agressif que ça peut représenter.
Mais en fait, quelle est la procédure? Là, on est dans le débat public. Après, qu'est-ce qui va se passer après?
Alors, le débat public, il écoute les gens. Ce débat public, il a démarré le 8 juin. Il continue pendant les vacances? Ah non, il s'arrête pendant les vacances. Il est bien choisi, normalement, c'est 4 mois. Et après, il va s'arrêter aux alentours du 16 ou 18 novembre, je ne sais plus exactement. Donc ce débat public, il écoute les gens, mais il n'a pas force de décision. Il n'a pas force de décision. Après, ça remonte plus haut, c'est l'État qui va dire, on continue ou on continue pas. On a écouté les gens, ils nous ont dit ce qu'il y avait à dire, on continue ou on continue pas. Et alors après, on passe à l'étape de l'enquête publique. L'enquête publique qu'on connaît, qu'on a vu à Guillos, que les gens connaissent en général. Et là, par contre, c'est quelque chose d'encore plus lourd, puisque c'est l'enquête va faire office en partie d'aspect décisionnel.
Et en fait, le débat public, il concerne pas seulement notre région, il concerne aussi tout le circuit, c'est-à-dire de Bordeaux à Toulouse. C'est-à-dire
voilà.
Les Toulousains, les gens du Tarn-et-Garonne sont concernés aussi. Quoi,
exactement. Alors il faut savoir qu'il y a 3 circuits qui sont prévus. Il y a trois choix possibles. Il y en a un qui passe par l'entre-deux-mers, il y en a un qui reprend la ligne de l'autoroute, et il y en a un autre qui passe chez nous. Mais en fait, on sait déjà que ça se passera vers chez nous, puisque la prévision financière, le financement qui a été évoqué, il ne concerne que nous. Il n'y a pas eu d'étude financière qui a été réalisée sur les 2 autres lignes. Donc ça veut dire que ça va démarrer de Bordeaux. À un moment donné, ça se sépare et ça vient vers le sud Gironde. Et après, il y a un autre tronc commun qui va repartir vers Toulouse. Donc on peut considérer que le circuit sud, tel qu'il est évoqué, c'est celui qui va en gros partir de Léojat. Ça fait je. On n'est pas encore au niveau des villes en plus et des villages. On n'est pas encore dans des certitudes.
Mais on reste dans le flou.
On reste dans le flou. Il faut savoir que on a appelé la commission de débat public, on dit mais il n'y a pas de village. Et ils nous ont répondu, ah oui, mais le technicien n'est pas encore au point, on a eu du mal. Enfin, on est dans la plaisanterie la plus totale, quoi.
D'accord. Et en fait, quand vous êtes rendu compte du problème, vous n'aviez rien entre les mains, quoi.
Rien du tout. Je me rappelle de l'anecdote. C'est un soir, un ami qui nous a averti par téléphone en disant, on a reçu ça dans les boîtes aux lettres. Et quand le temps qu'on réalise, c'était déjà trop tard, puisque les principales réunions qui se situaient à Bordeaux avaient déjà eu lieu.
Et sans que les gens, les citoyens soient.
Les gens, ils ont reçu dans certains villages, ils ont reçu dans certaines boîtes aux lettres, pas tout le monde. Ils ont les élus, par exemple, les élus n'ont pas été informés.
D'accord.
Comment
ça se fait, ça?
Pas de réponse. Pas de réponse, sinon le sentiment horrible qu'on n'ait pas pris en considération. Le sentiment de... Voilà,
c'est ça. Alors, est-ce que c'est une décision ministérielle, gouvernementale, ou est-ce que c'est une décision d'entreprise?
Alors, il est extrêmement... C'est intéressant ce que vous dites. Il est extrêmement complexe pour nous actuellement de dire d'où vient, pourquoi cette décision. On a le sentiment qu'elle est politique. Toulouse est en train de grossir. Il y a des cadres qui se rendent à Toulouse. On a vraiment le sentiment qu'il y a une espèce de mélange entre les intérêts financiers, on n'en est pas sûr, qu'il y a un mélange au niveau des intérêts politiques, on a le TGV chez nous qui va passer. C'est extrêmement complexe. On n'en est pas là. On est en train de travailler dessus et on n'en est pas là. On a un sentiment de flou là aussi énorme.
Ouais, mais ça c'est... Est-ce que les citoyens ne sont pas dépossédés de leur... du droit de déterminer quelque chose d'aussi important, enfin de participer à la détermination de quelque chose d'aussi important.
Quand alors même. La commission va vous dire non, il y a un débat, participez-y. Mais quand on regarde les dossiers, je vais raconter une anecdote qui va faire sourire si ce n'était aussi. On regarde le dossier, quand on passe à TGV, on pense à bruit. Et on regarde combien le TGV sur le dossier du maître d'œuvre, quelle est la quantité de bruit en décibels. Et on trouve des chiffres un peu aberrants, 60 décibels, 70 décibels. On se dit, mais 60 décibels, c'est une conversation dans un restaurant. Là, déjà, on dépasse les 60 décibels. Et on se dit, mais comment ça se peut? Comment est-ce possible qu'un TGV ne fasse que 60 décibels?
On ne peut pas le faire arrêter.
On va le laisser, tant pis, il est à 70 décibels. Alors, on se rend compte qu'ils ont pris la moyenne de la journée, silence y compris.
D'accord.
Donc on vous dit tout d'un coup, mais le TGV, il ne va faire que 60 décibels. Donc cette espèce de plaisanterie, on va dire plaisanterie, elle vous donne toute la dimension de ce que peut être un débat sur le TGV. Il va y avoir une réunion à Langon le 15.
Le 15 septembre.
Le 15 septembre, il est, alors là, je le dis, j'en profite, il faut que les gens se rendent vraiment le 15 septembre à Langon. On n'a pas encore l'heure, et vraiment le lieu.
Ça va se passer à la salle Nougaro.
Voilà, théoriquement, mais l'heure n'est pas encore définie. Alors, il y a une réunion. On se dit, on est content, on va participer à la réunion et on va pouvoir enfin dire ce qu'on a à dire. Il y a un tout petit problème, c'est que la réunion, elle est thématique. Ça veut dire que cette réunion, elle parle d'environnement. On nous dit, vous ne pourrez parler que d'environnement. Mais dans un dossier tel que celui-ci, il y a l'environnement, bien entendu, mais il n'y a pas que l'environnement. Il y a plein de choses à dire à côté. On peut pas. On ne pourra pas parler d'autre chose que de l'environnement, d'après ce qui est prévu.
En fait, c'est une séquestration de la démocratie.
J'ai ce sentiment, réellement. Enfin, je ne suis pas le seul. Les gens sont très en colère, sont indignés, parce que c'est vraiment. Les mots sont très bien choisis.
Est-ce que la mobilisation a pu se mettre en place assez rapidement?
Alors, coup de chance, malgré les vacances, la mobilisation s'est mise en place très rapidement. C'est étonnant même. Les élus, avec notre association et d'autres associations, ont fait des réunions. On sent qu'il y a de plus en plus de gens à chaque réunion. Mais n'oublions pas qu'il y a une date butoir qui se trouve en novembre, le 16 novembre. Il va falloir que tout ça soit réglé. Donc il faut qu'on se batte très très fort jusqu'au 16 novembre. Et après, on prendra un nouvel élan sur autre chose, sur une autre manière de combattre. Mais là, il faut vraiment qu'on se dise, en novembre, il y a un premier couperet qui va tomber. Mais la mobilisation, elle est là.
Comment font les gens pour avoir accès aux informations et puis avoir accès à tout ce que vous mettez en place pour...
Alors, la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'est de lancer une pétition. Lancer une pétition, c'est donner une information aux gens. C'est pas que les faire signer, c'est leur donner une information. Alors là, sur cette place, tous les gens peuvent signer s'ils le souhaitent la pétition. Il y a la pétition, il y a un site internet.
Site internet, il s'appelle comment?
Alors le site internet s'appelle http://lea.asso.free.fr.
D'accord.
Voilà.
lea.asso.free.fr.
Voilà.
Voilà. Donc on peut aller chercher la pétition aussi.
On peut aller chercher des tas. Alors, on peut aller les chercher chez les commerçants, on peut aller les chercher dans les mairies, on peut aller les chercher auprès de certains relais, je ne vais pas tous les nommer ici, dans chaque village, on essaie d'avoir des gens qui sont des relais. C'est pas très dur, il suffit de s'adresser à n'importe quelle mairie de la zone et très vite il y aura des coordonnées, il y a des gens qui se bougent. Villandreau, Saint-Symphorien, Balizac, etc.
D'accord, on sait que là où va passer le TGV, les gens vont être concernés,
voilà.
Mais ceux qui sont à côté, est-ce qu'ils sont concernés aussi?
Alors, il faut que vous sachiez que nous, on se bat pour refuser le projet. On se bat pas uniquement pour dire on veut pas de ce TGV dans notre jardin. On se bat pour refuser le projet dans sa globalité. Ça veut dire que on espère, et ça commence à se faire, que tous ceux qui sont pas concernés par le projet vont aussi beaucoup se mobiliser.
Oui, parce que ça fait énormément de bruit, le TGV, et donc quand on est à 2 km de la ligne, on doit avoir un peu de souffle quand même.
Alors, il y a un effet de souffle qui se sent au-delà des 2 km d'ailleurs.
Ah ouais.
Oui, c'est énorme. Le conseiller général qui est allé voir un TGV de prix, le conseiller général du canton de Saint-Symphorien, lui a parlé d'effet de souffle que lui a ressenti jusqu'à 8 km. C'est pas 2 km, c'est 8 km. Quant au bruit, il faut pas s'imaginer que parce qu'on est à 2 km, on n'entendra rien. Non, c'est une erreur, c'est une erreur. Ça va faire beaucoup, beaucoup de bruit. Et chose horrible, il faut savoir qu'on peut installer un TGV à 50 mètres d'une maison. 50 mètres, je suis en train de parler, c'est pas très loin, c'est le bout de la place, j'ai envie de dire. À peine. Voilà. Oui, donc, on peut avoir le TGV au bout de la place.
Et sans avoir besoin d'exproprier, parce que ça représente quoi d'emprise? C'est une dizaine de mètres?
Alors, l'emprise, théoriquement, c'est, non, c'est 50 mètres, 50 latéralement. Le TGV, lui, c'est l'argument qui est évoqué, c'est qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de population dans la lande girondine, donc on va exproprier beaucoup moins de gens. Mais ça sera un coût de toute façon supérieur, parce que vu les équipements qu'il va falloir mettre en place pour les incendies, par exemple, ce que j'évoquais tout à l'heure, ça va être quelque chose qui va revenir très très cher.
D'accord. L'association Léa est basée à
Landiras. Donc, et elle a des représentants dans chaque village. Hein.
D'accord. Et donc on peut trouver des gens.
Voilà. Bon, je peux pas les énumérer ici parce qu'il y en a beaucoup.
Il y a un numéro de téléphone ou...
Alors il n'y a pas de numéro de téléphone, mais il y a une boîte postale. C'est la boîte postale 3 à Landiras, et il suffit d'envoyer un courrier. Et les gens n'auront aucun mal à nous contacter.
D'accord. Et il y a des réunions bientôt.
Alors, il y a d'autres réunions. Si mon collègue qui est à côté de moi pouvait prendre la parole pour évoquer ces réunions, toutes les réunions.
Parlez bien, madame. Oui, oui, l'association réalise une réunion à Saint-Léger-de-Balson le samedi 27 août à 10h à la salle des fêtes, où là, les habitants pourront trouver toute l'information, les pétitions à signer, et où ils pourront également donner leur avis, s'exprimer publiquement, en plus du débat public.
Déjà saisi le nouveau sous-préfet de Langon, où il est pas...
Alors, c'est en cours, mais surtout, ce qui est important à dire, c'est qu'il y a un débat public et c'est qu'il faut que les gens y participent, vraiment. Alors, y participer, ça, là aussi, s'ils vont sur notre site, ils vont trouver toutes les manières participer, de toutes les manières possibles pour participer à ce débat.
D'accord. Et c'est être citoyen encore plus en participant à ce débat-là, en sachant que c'est pas seulement refuser une merde dans notre jardin, c'est prendre part à un débat qui est très très important, et qui, au-delà du simple TGV, fait de nous de véritables citoyens, car il faut s'accaparer la démocratie pour qu'elle existe.
La notion de citoyenneté, dans ce cas-là, je crois qu'elle est importante. Vous avez raison.
On va maintenant parler d'autre chose, parce que c'est pas le premier tas de bois que les méchants essaient d'installer chez nous. On va parler de Guillos. Où est-ce qu'on en est avec la décharge de Monsieur De Cons?
La décharge de Monsieur De Cons. Alors,
il a malheureusement un nom approprié.
Il a, oui. Alors, cette décharge, c'est un combat qui dure depuis de nombreuses années. Et c'est un combat qui est en passe d'être gagné par les associations qui se sont battues contre cette décharge, parce que tout simplement, une fois de plus, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui pouvait être dramatique. Et ce quelque chose qui pouvait être dramatique, c'était qu'il y avait de l'eau, pas loin, et que cette eau, elle alimentait 35% de Bordeaux en consommation. Donc, on espère, tous les éléments que nous avons en notre possession actuellement, et que nous ne pouvons pas encore diffuser, nous montre que peut-être cette décharge ne se fera pas.
Il y a eu une mobilisation aussi, alors je mets des guillemets à ça, mais j'ai l'impression qu'une mobilisation intelligente, c'est-à-dire que des gens se sont fédérés et plein d'autres sont venus les soutenir, voilà. sinon les aider à faire en sorte que ce projet-là soit mieux réfléchi, quoi.
Alors, quelque chose qui est très touchant, vous parlez de fédération, quelque chose qui est très touchant, c'est de voir qu'il y a eu des tas de villages qui n'étaient pas du tout concernés par cette décharge. Après tout, on peut se dire, moi, mon village, il est à 30 km, la décharge, peu importe. Ben non, il y a eu un mouvement de nombreuses personnes, de nombreuses associations, de nombreux villages. Le terme de fédération est très bien choisi, et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour le TGV.
Et là, ça va être la décharge de Guillos, ça va être terminé, là?
On l'espère. Tant que le préfet n'a pas pris sa décision et il n'y a pas de date qui est définie, on ne peut pas dire, effectivement, c'est fini. Mais on a l'impression que c'est en bonne voie.
D'accord. Autre sujet de préoccupation pour plein de gens, ça c'est la porcherie industrielle de Saint-Symphorien.
L'extension de la porcherie.
Exactement.
Alors, la Bretagne est abîmée. La Bretagne est abîmée, c'est une zone abîmée, c'est une zone qui a des problèmes avec l'eau potable, tout le monde le sait, il suffit de regarder la télévision, les médias, et on est au courant. Donc, il faut trouver d'autres endroits. Et malheureusement, on a l'impression là aussi que la lande girondine, le sud Gironde, est un endroit idéal. Le maïs n'est pas loin. Ce sont des zones vierges. Pourquoi ne pas installer des porcheries? Alors, il y a une porcherie qui est installée à Saint-Symphorien, qui a demandé une extension. Il y a eu d'autres types de combats au niveau des porcheries en Gironde, à Lanton. Là aussi, on se bat. C'est pas gagné, mais il y a eu des succès.
Oui. Oui, la porcherie de Blagon à Lanton a été combattue par une coordination des associations du secteur. Et finalement, le projet n'a pas eu lieu. Et l'exploitant actuel, malheureusement, risque de vendre sa porcherie à quelqu'un d'autre qui risque de faire ressortir le projet, qui risque d'être à nouveau, qui de réapparaître et d'être accepté. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où on va. Avec nos gouvernants, on est plutôt mal barré, je dirais.
Et le fait que le fils de la porcherie, le patron de la porcherie de Saint-Symphorien ait acheté un abattoir à côté d'ici à La Réole, où le projet d'abattre de manière importante.
Alors on n'a pas
d'informer des choses.
On n'a pas d'informations précises là-dessus. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il est en train de se préparer des choses, c'est-à-dire des transits de porcs, des accueils de porcs en quantité énorme, mais on est très inquiet, d'autant plus qu'on peut considérer pour le moment que l'extension ayant été accordée, sauf si le parc se décide à se bouger.
Les bâtiments, ils sont construits quand même.
Les bâtiments sont construits, il en avait tout à fait l'autorisation, il a déposé le permis de construire, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Mais on a envie de dire, l'extrêmement difficile, il est à venir. C'est-à-dire, on redoute que ces premières porcheries en amènent d'autres. Et c'est quelque chose dont on entendra encore sûrement beaucoup parler.
Oui, parce que je suppose que pour faire tourner un abattoir économiquement, il faut faire du volume, et voilà. Pour faire le volume, il faut produire de la viande quelque part.
Tout à fait, d'autant plus que quand on se trouve dans le sud de Gironde, on a droit à l'appellation jambon de Bayonne.
Oui.
C'est quelque chose de très large en fait, de très particulier, mais enfin bon.
Alors ça c'est étonnant.
Oui. Alors c'est étonnant parce que c'est aussi très étonnant d'aller coller des porcheries alors que par exemple 6 km plus loin, il y a une eau de source réputée, Soria, qui est en train de prendre de l'ampleur et où les propriétaires sont très inquiets par rapport au forage, par rapport à... voilà.
Et on va aussi s'inquiéter pour les cochons qui sont élevés dans des conditions abominables.
C'est l'horreur. Moi, j'ai visité des porcheries. On peut parler de cruauté envers les animaux. C'est pas très difficile pour avoir des informations là-dessus. Il y a souvent des émissions à la télévision. Il y a des sites qui en parlent. C'est l'horreur.
On va faire le résumé. Le TGV. Guillos, décharge de déchets ultime. La porcherie industrielle. L'autoroute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La ligne à grand gabarit.
On pourrait parler d'incinérateur.
Ah oui, on nous promet un incinérateur. Oui.
On nous promet rien, mais il y a quelque chose qui est en train de... C'est diffus au niveau de Langon, tout ça. Si on regarde Langon et Arcachon, on se dit mais où est-ce qu'on pourrait mettre un incinérateur? Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on est bien placé là, une fois de plus. Les combats vont être incessants pendant des années.
Est-ce que ça veut dire que nous, on refuse tout?
Non, ça veut dire qu'on refuse des projets qui sont aberrants. Je veux reprendre Guillos. Si on n'avait pas réagi, 35% de l'eau de Bordeaux aurait peut-être été polluée. Donc à chaque fois qu'il y a un projet, chaque fois qu'on étudie ce projet sérieusement, on se rend compte que c'est un projet aberrant. La ligne Bordeaux-Toulouse, il y a d'autres options. Il y en a plein d'autres options. On se rend compte qu'elle est incohérente, qu'elle est étonnante. Mais on espère qu'on réussira à convaincre ceux qui doivent être convaincus que c'est incohérent.
On a l'impression que c'est le marché qui passe avant tout. On l'a vu avec l'Airbus qui s'est permis qui ferme des routes nationales, enfin départementales. Des fois, la nuit, on n'a pas le droit de circuler sur des routes qu'on a payées. Et tout ça au nom d'une économie et de la renommée européenne, sinon française. Est-ce que l'entreprise est en train de prendre le pas sur la démocratie, sur la territorialité?
Bon, alors moi je crois qu'on y est. On a envie de parler d'intérêt public, mais on a envie de parler d'intérêt privé quand même. Quand on regarde Guillos, on se rend compte qu'il s'agissait uniquement d'intérêt privé. Donc les intérêts privés sont en train de grignoter le public. Alors en ce qui concerne le TGV, il va s'agir aussi d'intérêts privés. Des TGV, ça se construit. Il y a des intérêts privés et publics qui se retrouvent mélangés dans des choses qui sont floues et qui sont un peu scabreuses.
Oui, d'autant que si ça fait comme les sociétés d'autoroutes, fabriquées, construites par l'État et puis après recédées au privé et exploitées par des sociétés et
des
surtout par des actionnaires qui vont avoir une notion de rentabilité, quoi.
Mais alors surtout, il faut ramener ce que vous dites à la réalité du terrain. On habite ici. On sait ce que ça peut représenter pour nous, on sait ce que ça peut représenter pour n'importe qui va avoir à subir la longue litanie des projets que vous venez d'évoquer. Encore une fois, un incinérateur, c'est pas anodin, un TGV, c'est pas anodin, une décharge de déchets ultimes, c'est pas anodin, et on pourrait continuer comme ça longtemps, parce que j'ai l'impression qu'on va pouvoir continuer longtemps.
Est-ce que se battre contre des projets comme ça, ça prend beaucoup d'énergie ?
C'est lourd, c'est épuisant. C'est épuisant parce qu'il faut constamment renouveler les gens. C'est vrai que se battre 3 ans ou 4 ans contre la décharge de Guillos, c'est épuisant. C'est beaucoup de soirées, c'est beaucoup de réunions, c'est de l'argent. C'est l'impression aussi parfois qu'on a beaucoup de mal à convaincre les autres. Tout à l'heure, l'idée du canular TGV, elle a existé.
Oui, oui.
Beaucoup de gens dans les commerces de certains villages considéraient, mais non, c'est pas vrai, c'est un canular. Et il faut se battre contre l'idée que ça va être une réalité. Et une fois que les gens ont pris conscience que ça pouvait être une réalité, il faut se battre pour leur dire, même si vous n'êtes pas directement concerné, eh bien, intéressez-vous à ça.
D'accord. Juste pour terminer, merci d'être venu en tout cas ce soir dans les conditions. Mais vous savez, Radio Uze, c'est très très écouté, donc on est là. On est la première radio du secteur.
On a donc tous été brillants.
Sur 4,5 km, on est la première radio. Donc juste pour terminer, il y a beaucoup de monde qui travaille au sein de l'association.
Oui, oui, oui.
Mais il y en a pas assez.
Il y en a pas assez. Il y en a jamais assez.
Donc il faut
il faut adhérer. Il faut venir dans les réunions qu'évoquait mon collègue. Encore une fois, il y a une réunion à Saint-Léger de Balzon qui est pas très loin d'ici, le 27. Il faut venir, il faut se renseigner et on accueille vraiment toutes les bonnes volontés.
Et est-ce qu'on va trouver la pétition à signer sur le festival ?
Alors, on va tâcher de la disposer un peu partout pour que cette pétition soit signée. Ne serait-ce qu'ici, entre autres.
D'accord.
Voilà.
Elle sera, je parle sous le couvert d'Antoine Chao, elle sera à disposition à Radio Uze. Et donc, vous pourrez venir signer la pétition contre le TGV ici sur le stand de Radio Uze. Merci à vous trois.
Merci à vous.
Et puis donc demain on continuera un petit peu ce débat sur les projets qui concernent le Sud-Gironde avec la CPDE, avec Dédé Franco qui lui viendra nous parler de la façon dont la CPDE s'est battue contre l'implantation d'une ligne à haute tension, dans le secteur qui est passé un petit peu plus loin, mais aussi les dégâts que ça a causé, parce que ça je sais pas si chez vous, en fait, dans l'assaut, il y a des gens qui se sont mal remis d'avoir beaucoup travaillé, mais à la CPDE par exemple, il y a eu des gens qui ont beaucoup souffert,
qui ont beaucoup travaillé,
et on pense aussi à quelqu'un d'autre, c'est ce fameux tunnel du Somport.
Tout à fait.
Qui pourrait être une vraie catastrophe écologique pour cette région, pour cette vallée. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans cet assaut. C'est l'Indien, c'est Péteter, et qui lui, au bout d'un moment, a, comme on dit, pété les câbles et
c'est épuisé.
Voilà, c'est épuisé. Et aujourd'hui, il retrouve petit à petit un certain équilibre. Et donc, on va avoir une pensée pour Eric Péteter, parce qu'il a fait un boulot énorme. Et quelque part, il a laissé beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je pense que moi, j'aimerais bien qu'il soit là à la radio. Alors, s'il y a quelqu'un qui écoute à la radio, qui sait comment joindre Eric Péteter, qu'il nous le fasse savoir, parce que ça serait bien qu'il soit là.
C'est un grand, oui.
On se retrouve demain et tout à l'heure, peut-être, si Charles Sylvestre veut bien venir, nous on va parler avec lui du zeste musical, de la problématique Compagnie Lubat et compagnie. Alors à tout à l'heure avec Charles Sylvestre. Ah, mémé, la
Allez, vous y êtes ? Allez.
Sud-ouest, usest amusine, usest mode ouest, ma mécanomane.